Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition matinale du mardi 10 septembre 2024. Voici le sommaire. Au Libéria, les autorités cherchent à capturer 47 personnes qui se sont évadées d'une prison le week-end dernier. Au Tchad, les pluies et inondations ont fait 341 morts et 1,5 million de sinistrés depuis le mois de juillet. Ici aux États-Unis, les candidats à la présidentielle de novembre, Kamala Harris et Donald Trump, s'affrontent ce mardi soir dans un débat télévisé. De hauts responsables militaires américains et chinois se parlent par vidéoconférence au moment où Pékin et Washington tentent de maintenir des échanges malgré leurs différends. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Alexandrine Holonyan et l'espoir présenté par Yacouba Ouédraogo. Mais pour commencer, voici le journal. Au Libéria, les autorités ont lancé une chasse à l'homme après l'évasion de 47 détenus dimanche après-midi de la prison centrale de Kakata. Jean-Roger Bion fait le point.
Les prisonniers ont profité d'une faille dans le système de sécurité, a dit le ministère libérien de la Justice, sans préciser laquelle, sur sa page Facebook. Le ministère de la Justice est profondément préoccupé par cet événement et prend toutes les mesures nécessaires pour la capture des détenus en fuite, a-t-il fait savoir hier lundi. La police a déployé des renforts pour les retrouver et le gouvernement appelle les fuyards à se rendre pour éviter des charges supplémentaires, demandant au public de ne pas leur venir en aide. Un rapport de 2023 du département d'État américain décrit la vie dans les prisons libériennes comme dure et menaçant la vie des détenus en raison d'une surpopulation criante, de pénuries alimentaires, de conditions sanitaires inappropriées, d'infestations par la vermine et de soins médicaux insuffisants, générateurs de maladies.
Au Nigeria, une explosion provoquée par la collision entre un camion-citerne et un camion transportant des passagers et du bétail a fait au moins 5 à 9 morts. La collision a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, peu après minuit, sur une route de la région d'Agaï, dans l'état du Niger. Le porte-parole de l'agence de gestion des urgences de l'état du Niger, Ibrahim Ousseni, a indiqué que de nouvelles victimes pourraient être découvertes au fur et à mesure de l'évacuation en cours du lieu de l'accident. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a demandé lundi dans un communiqué aux agences de transport et des infrastructures routières de redoubler d'efforts pour améliorer la sécurité des voyageurs et des résidents. Au Tchad, les pluies diluviennes et inondations ont fait 341 morts et 1,5 million de sinistrés depuis le mois de juillet. L'ONU s'inquiète d'une crise des inondations qui affecte toute la région. Rosie Mounezero.
Les 23 provinces du pays sont actuellement touchées par la crise des inondations qui est devenue de plus en plus récurrente ces dernières années, selon un bilan publié par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires au Tchad. Ce bilan fait également état de 164 000 maisons détruites, des champs détruits et du bétail emporté. Le gouvernement tchadien n'a pas publié à ce stade de bilan global de ces intempéries. La semaine dernière, 14 élèves et leurs professeurs ont perdu la vie dans l'effondrement d'une école après des pluies torrentielles dans la province du Ouaddaï, dans l'est semi-aride du Tchad. Mi-août, au moins 54 personnes sont mortes dans des inondations qui ont affecté la province de Tibesti, dans l'extrême nord désertique du Tchad. La semaine dernière, l'ONU avait alerté sur l'impact des pluies torrentielles et des inondations sévères dans la région en appelant à une action immédiate et à un financement suffisant pour faire face à la crise climatique. L'été 2024 a été le plus chaud jamais mesuré sur la planète où les records de température s'enchaînent sans faiblir depuis plus d'un an.
Toujours au Tchad, deux agents de santé sont portés disparus depuis samedi après leur enlèvement par un groupe armé qui a tué un de leurs collègues dans la région du Grand Lac, du lac Tchad, a annoncé lundi l'ONG Alima, active dans la région. Un groupe armé non étatique a attaqué le personnel de santé qui travaille au poste fixe de santé de Fende 2, situé dans la région du lac Tchad, à 200 km de la capitale N'Djamena, a annoncé l'ONG dans un communiqué. Les ONG Alerte Santé et Alima dénoncent cette attaque contre les personnels de santé de Fende 2 et plus généralement les attaques perpétrées contre les personnels de santé qui apportent un soutien humanitaire aux populations tchadiennes. En Algérie, deux candidats à la présidentielle de samedi, l'islamiste Abdelahi Hassani et le socialiste Youssef Aouchich, ont contesté lundi le taux de participation et le pourcentage des voix en leur faveur annoncé par l'autorité électorale. Devant la presse à Alger, Abdelahi Hassani a toutefois reconnu la victoire du président sortant, Abdelmajid Tebboune. Dimanche, l'autorité électorale a annoncé une victoire de M. Tebboune avec 94,65% des voix, sans communiquer les bulletins blancs ou nuls, ni de nouveaux chiffres sur la participation.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la vice-présidente démocrate Kamala Harris se trouve à Philadelphie, où elle va faire face ce soir à son adversaire républicain Donald Trump pour un débat très attendu dans la perspective d'une présidentielle que tous les sondages prédisent extrêmement serrée. Jacques Aristide.
L'ancien président Trump va lui atterrir à Philadelphie, en Pennsylvanie, quelques heures avant le duel télévisé organisé par la chaîne ABC. Dans une interview enregistrée dont un extrait a été diffusé hier, Kamala Harris juge que devant les caméras, son rival va utiliser ses vieilles recettes éculées. « Il n'a aucune limite dans la bassesse et nous devons être préparés à ça », ajoute-t-elle. Pour sa part, Donald Trump a multiplié ses apparitions publiques sur sa plateforme Truth Social. Il a prévenu qu'une fois de retour à la Maison-Blanche, il imposerait de longues peines de prison à tous ceux qui, selon lui, prévoient de tricher en novembre. La Pennsylvanie, avec ses 19 voix au collège électoral et cette tendance à basculer d'un camp à l'autre, est l'un des états pivots les plus convoités en vue du scrutin du 5 novembre. Comme les deux précédentes présidentielles, celle de 2024 pourrait se jouer à quelques milliers de voix dans certains comtés en raison du mode de scrutin au suffrage universel indirect.
De hauts responsables militaires chinois et américains se sont parlé ce mardi lors d'un appel vidéo, a annoncé le ministère chinois de la Défense, au moment où Pékin comme Washington tentent depuis l'an dernier de maintenir des échanges malgré leurs différends. Le 10 septembre au matin, Wu Yanan, chef du commandement du théâtre sud de l'armée populaire de libération de Chine, a eu un appel vidéo avec Samuel Paparo, chef du commandement Indo-Pacifique des États-Unis, et les deux parties ont eu un échange de points de vue approfondis sur des questions d'intérêt commun, selon le communiqué du ministère. Le chef du commandement militaire américain pour l'Asie-Pacifique, Samuel Paparo, a exhorté l'armée chinoise à reconsidérer son utilisation de tactiques dangereuses, coercitives et potentiellement escalatoires en mer de Chine méridionale et ailleurs, a déclaré le commandement régional américain dans un communiqué. La compagnie Apple a présenté lundi sa nouvelle gamme d'iPhone, les premiers smartphones dotés d'Apple Intelligence, son nouveau système d'intelligence artificielle générative. Il s'agit d'une technologie star de la Silicon Valley dans laquelle le groupe californien est très attendu. Eric Manirakiza.
Nous sommes ravis de présenter les premiers iPhones conçus dès le départ pour Apple Intelligence et ses capacités révolutionnaires, a simplement déclaré Tim Cook, le patron de la firme à la pomme, dans une vidéo diffusée au siège à Cupertino en Californie et en ligne. L'entreprise a ensuite lancé ses nouvelles montres connectées Apple Watch. Le groupe californien joue gros sur ses nouveaux iPhones alors que son voisin Google et surtout le sud-coréen Samsung, numéro 1 mondial des smartphones, ont déjà lancé des combinés infusés à l'intelligence artificielle générative. Et Apple a besoin d'un argument de vente pour relancer ses téléphones en légère perte de vitesse. Pour la période d'avril à juin, le chiffre d'affaires des iPhones a baissé d'1% sur un an à 39 milliards de dollars. Selon l'entreprise, son intelligence artificielle sera notamment capable de suggérer des réponses aux courriels et de créer des images. Les utilisateurs pourront également poser des questions plus compliquées à Siri, l'assistant vocal, par exemple pour trouver une photo dans leurs albums en la décrivant à l'oral. Les utilisateurs d'Apple auront accès à des nouvelles fonctionnalités dès cet automne, mais devront attendre 2025 pour une partie d'entre elles, et certaines nécessiteront sans doute un abonnement payant.
L'Australie va fixer entre 14 et 16 ans l'âge minimal pour utiliser les réseaux sociaux, selon un projet de loi destiné à devenir effectif cette année, a annoncé ce mardi le premier ministre australien Anthony Albanese. Un test de vérification d'âge à la connexion va être mené dans les prochains mois, avant que le texte n'entre en vigueur, a ajouté M. Albanese. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Alexandrine Rolognon.
En Côte d'Ivoire, le climat ensoleillé dans les principales régions productrices de cacao permet aux fèves de mûrir dans de bonnes conditions et d'éviter les maladies. Les agriculteurs ont déclaré que la récolte de la culture principale avait commencé, mais que de nombreux agriculteurs étaient réticents à vendre leurs premières fèves au prix actuel à la production. Ils espèrent que le prix sera augmenté par rapport au prix actuel de 1500 francs CFA par kilogramme au début du mois d'octobre. L'entreprise publique namibienne Nam Power a déclaré lundi avoir signé un contrat avec deux entreprises chinoises pour commencer la construction de la plus grande centrale solaire du pays. La centrale contribuera à stabiliser les futures augmentations des tarifs de l'électricité, à soutenir la croissance économique de la Namibie et à promouvoir la durabilité environnementale, selon Kaenge Aolofu, directeur général de Nam Power, dans un communiqué. L'Organisation mondiale du commerce a appelé lundi à faire plus pour les pays pauvres. Selon le rapport 2024 de l'Organisation sur le commerce mondial, les économies à faible revenu et à revenu intermédiaire accusant un retard tendent généralement à être moins engagées dans le commerce international, à recevoir moins d'investissements étrangers directs et à échanger avec un nombre plus réduit de partenaires.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouedraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Suite et fin ce mardi des matchs de la deuxième journée de qualification de la prochaine CAN Maroc 2025.
Oui, après sa nette victoire, 3-1 face au Lesotho, la République centrafricaine affronte le Gabon. Le Cameroun vise un deuxième succès face au Zimbabwe après sa victoire 1-0 contre la Namibie, malgré le conflit entre l'Africa Foot et le ministère des Sports. Pour notre consultant sportif, Jules Valentin Ngoué, les Lions Indomptables partent favoris.
Bien sûr, mais ça marche bien depuis les éliminatoires et pour la Coupe du Monde 2026, puisque les Lions Indomptables ont récupéré tous leurs joueurs cadres. Ils ont tous leurs effectifs au complet. On n'a plus le problème des binationaux qu'on ne lâche pas. Et donc l'équipe a son niveau réel. La victoire contre la Namibie va conforter cette union sacrée, ne serait-ce qu'autour des joueurs et qui, sur le terrain, font leur devoir et qui auraient pu gagner plus largement ce match. Et cette fois-ci, rencontre le Zimbabwe et il ne faut pas l'oublier, c'est pas à Harare, c'est à l'extérieur, c'est à Kampala. Et à ce niveau-là, les deux équipes iront à égalité au niveau. En ce qui concerne le public, les Lions Indomptables tiendront à faire le break.
Jules Valentin Ngoué, consultant sportif. Déplacement difficile pour le Nigeria qui a bien débuté ses éliminatoires face au Bénin battu 3-0. Les Guépards reçoivent la Libye à Abidjan et le Rwanda accueille de son côté le Nigeria. Le Mali, lui, veut réagir en Eswatini après avoir été accroché à domicile par le Mozambique 1-0. À suivre aussi, entre autres rencontres, Botswana, Égypte, Guinée, Tanzanie. Le Burkina Faso reçoit le Malawi au stade du 26 mars de Bamako. Le Cap-Vert fait face à la Mauritanie et le Tchad accueille la Côte d'Ivoire.
Hier, le Sénégal s'est relancé.
Après un début mitigé face au Burkina Faso avec un match nul 1-0, le Sénégal s'est relancé en battant le Burundi 1-0 sur un pénalty litigieux transformé par Ismaël Assar, nous dit Amdine Sy, notre consultant sportif.
C'était le match du Rassar parce qu'il ne fallait pas rater ce match après le but concédé à domicile face aux étalons du Burkina Faso. Donc, à l'unité qui est très critiquée en ce moment au Sénégal, a un peu chamboulé hein, son 11 de départ en amenant 5 changements par rapport au 11 de départ qui avait affronté les étalons. Cela a porté ses fruits, on peut dire, puisque le Sénégal a finalement gagné par 1-0 sur un pénalty, il faut le dire, très litigieux. D'abord, le fait de siffler un pénalty, ça pose problème parce que franchement, il n'y avait pas matière à siffler un penalty. Ensuite, la faute ou soi-disant faute ne s'est pas passée dans la surface de réparation.
Amdine Sy, consultant sportif. Toujours hier, le Ghana a fait match nul, un but partout face au Niger après sa défaite 1-0 à domicile contre l'Angola, 2-0 pour l'Ouganda face au Congo, 1-1 entre Madagascar et les Comores et 2 buts partout entre le Togo et la Guinée équatoriale.
Merci à Kouba. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Cameroun, de graves inondations compromettent la rentrée scolaire de milliers d'élèves dans la région de l'extrême nord. Selon le système des Nations Unies, plus de 160 000 personnes, dont des enfants, sont affectées par des pluies diluviennes dans 4 des 6 départements de l'extrême nord voisins du Tchad et du Nigeria. De fortes précipitations ont été enregistrées ces derniers jours dans cette partie sahélienne du pays. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julentap.
La région de l'extrême nord a les pieds dans l'eau. La situation a des conséquences sur la rentrée scolaire dans les localités sinistrées, comme dans le village de Domo, d'où est originaire Jean-Claude Fort-Lanoux, conseiller municipal à Yagoua.
Dans les zones rurales, l'effectivité dans les salles de classe seront difficiles, parce que certaines écoles sont prises par les sinistrés. Pour casement, les parents ne sont pas prêts pour que les enfants partent à l'école parce que aujourd'hui nous comptons 4 villages sur les 8 qui sont inondés. Comme chez moi par exemple, ceux qui sont à Domofoulou ne peuvent pas quitter de Domo pour venir à l'école principale de Domo.
Dans le département de Mayo-Danaï, Yagoua, la ville principale, est coupée en deux. Selon les autorités locales en charge des enseignements secondaires et de l'éducation de base, près de 2000 élèves vont éprouver des difficultés à se rendre à l'école. Mamadou Boukar Alifa, président de l'Association pour le développement du Mayo-Danaï.
Si nous pensons que les inondations annoncées et vécues par tout le département du Mayo-Danaï constituent un obstacle, tout le monde va rester attendre que la saison arrive. La question c'est, même après les inondations, quel va être l'état des infrastructures d'accueil? Donc, il faut qu'on réfléchisse rapidement pour que nous nous élevions au-dessus de tout ça, pour pouvoir permettre aux enfants qui, dans cette partie du Cameroun, de se rattraper dès la rentrée.
Le gouvernement n'envisage pas de décaler la rentrée scolaire dans la région. Les élites ont eu recours aux jeunes volontaires pour transporter les élèves par pirogue vers leur établissement scolaire. Sanisana Vunsumna, ingénieur des mines et ressortissant du département du Mayo-Danaï.
On s'est dit, quelles sont les solutions que nous pouvons mettre sur pied? Par exemple, mettre des pirogues qui pourraient relier les villages inondés aux différents établissements. Ça, c'est des solutions qu'on peut mettre sur place et peuvent fonctionner parfaitement.
Jean-Claude Fort-Lamy, conseiller municipal de la ville de Yagoua. La solution des pirogues est limitée.
Les élèves sont nombreux. Comment les faire? Il faut multiplier le nombre de pirogues. Mais également, nous pensons que ceux qui ont les moyens, s'ils peuvent le faire pour faire traverser les enfants, peut-être par les véhicules, serait encore plus bien. Mais il faut penser pour le futur. Comment faire en sorte que cette eau soit bien utilisée, c'est-à-dire rentable, non seulement à la population, mais également comment faire de ça que ça devienne des opportunités pour la communauté.
La situation sanitaire inquiète aussi. Le docteur Pierre Laoussou est directeur de l'hôpital régional annexe de Yagoua.
La période des pluies est liée à l'apparition de certaines maladies dont dans la fréquentation, presque le tiers des patients que nous recevons souffrent du paludisme.
8600 maisons ont été détruites depuis le mois de juillet à la suite des pluies diluviennes dans la région de l'extrême nord. Le bilan dressé fin août par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Cameroun fait état de 7 morts. Emmanuel Jumtap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En République démocratique du Congo, une semaine après la rentrée scolaire, les enseignants de nombreuses écoles publiques maintiennent leur mouvement de grève. Les parents d'élèves s'insurgent contre cette mesure et appellent ces enseignants à faire preuve de patriotisme, citant pour exemple les militaires dans les champs de bataille. Reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
Une semaine après l'ouverture officielle de l'année scolaire, les enseignants des nombreuses écoles publiques réclamant la hausse de leur salaire maintiennent leur mouvement de grève. Fidèle Biouma est enseignant et président d'une structure syndicale.
Nous avons eu assez de pourparlers avec le gouvernement, mais malheureusement, malgré la volonté des syndicalistes, le gouvernement est resté inerte à ce qui concerne la réalisation de tous les accords que nous avons faits dans les différentes assises. Et donc, les enseignants ces jours sont dans une situation très difficile et même ont décidé de rester à la maison jusqu'à ce que le gouvernement puisse améliorer leur situation salariale.
Dans la ville de Goma, par exemple, seules les écoles privées ont repris les cours depuis le 10 septembre. Mounja Odette, parent d'élèves, appelle au sens du patriotisme des enseignants grévistes en cette période où le pays est confronté à d'énormes défis sécuritaires.
Nos militaires souffrent beaucoup plus que même les enseignants. Mais ce sont ces derniers qui réclament chaque année l'augmentation du salaire. Depuis plusieurs années maintenant, nos militaires passent leurs jours et nuits sur des lignes de combat. Et donc, les enseignants devraient imiter leur sens de patriotisme, mettre un peu d'eau dans leur vin et rentrer encadrer les enfants dans des écoles.
Les enseignants en grève font également allusion aux salaires élevés des parlementaires et membres du gouvernement congolais pour dénoncer ce qu'ils qualifie d'injustice salariale, une raison qui, selon le député honoraire Jimmy Penzo de la circonscription d'Emasimanimba dans la province du Kwilu, est fondée mais ne doit pas constituer un goulot d'étranglement.
Je sais que le gouvernement est en train de travailler nuit et jour pour répondre favorablement aux exigences, notamment du syndicat, qui demande au gouvernement qu'il puisse rehausser le salaire des enseignants à 500 $ ou carrément 1 500 000 francs. Congolais. Et je sais que cela est de facto pas impossible, mais il faut savoir que la rentrée a déjà débuté, que nous puissions réellement voir le bon côté des choses.
Depuis l'application de la mesure de la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo, le programme scolaire fait régulièrement face à des interruptions liées à des revendications salariales. Zanem Letizaïdi, à Goma, pour VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
La guerre entre Israël et le Hamas continue de faire des victimes alors que des analystes préviennent que les souffrances ne cesseront pas à moins qu'un accord de cessez-le-feu ne soit conclu. Bien qu'une trêve semble toujours hors de portée, les États-Unis ont laissé entendre qu'une proposition de paix plus détaillée serait faite dans les prochains jours. Reportage de Véronique Balderas Iglesias de la VOA, le récit est de Jacques Aristide.
La sécurité a été renforcée dimanche à la frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie après qu'un homme armé a ouvert le feu sur les forces israéliennes au point de passage du pont Allenby. Trois civils israéliens, de même que le tireur, ont été tués. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a condamné l'attaque qui serait liée à la guerre entre Israël et le Hamas.
C'est une journée difficile. Un terroriste méprisable a assassiné de sang-froid trois de nos concitoyens sur le pont Allenby. Au nom du gouvernement, j'adresse mes condoléances aux familles des victimes.
Les troupes israéliennes ont poursuivi leurs opérations contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza durant le week-end, tandis que les autorités sanitaires palestiniennes rapportent qu'au moins 40 939 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre. À moins qu'un accord de cessez-le-feu ne soit conclu et mis en œuvre, les tourments des deux côtés devraient se poursuivre, prévient via Skype Rick Stoll, professeur émérite de sciences politiques à l'université Rice dans l'État du Texas.
People will still be getting killed.
Des gens continueront à se faire tuer. Je pense que les otages ne seront pas libérés. Je ne vois pas comment Israël pourrait vaincre le Hamas. Il ferait mieux d'essayer de parvenir à une sorte de règlement maintenant.
Un sentiment similaire a été exprimé samedi à Tel Aviv par les proches des personnes capturées lors de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, dans laquelle 1200 personnes ont été tuées. C'était la première fois que les familles des otages protestaient aux côtés des manifestants anti-gouvernementaux. le cousin d'Ifat Calderon est l'un des otages.
Si vous voulez faire changer les choses ici en Israël, nous devons sortir et crier « Arrêtez la guerre !» et pour un accord, maintenant.
En tant que médiateur, les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose pour contribuer à instaurer une paix durable dans la région, estime le professeur Stoll.
Je ne pense pas que nous ayons une influence notable sur les parties concernées. Je crois qu'elles sont en train de faire ce qu'elles estiment être le mieux pour elles.
Le chef de la CIA, William Burns, a tout de même indiqué samedi qu'une proposition de cessez-le-feu plus détaillée serait faite dans les prochains jours.
This is the voice of America. Washington, Papa Bozet.
Washington DC, capitale fédérale des États-Unis. Et on va tout près de Washington, dans l'État de Virginie-Occidentale, qui a été solidement démocrate pendant la majeure partie du XXe siècle. Mais aujourd'hui, c'est un bastion républicain qui a permis à l'ancien président Donald Trump de remporter des victoires écrasantes en 2016 et en 2020. La correspondante de VOA au Congrès, Catherine Gibson, s'est rendue à Berkeley Springs, en Virginie-Occidentale, pour voir comment se déroule l'année électorale. Le récit est de Yacouba Ouidraogo.
Fin d'été dans une ville touristique de Virginie-Occidentale. Les familles profitent des vacances avant le retour à l'école et les températures plus fraîches. Les pensées se tournent vers le changement radical de l'élection présidentielle de Joe Biden à Kamala Harris. John Lynch est un électeur de Virginie-Occidentale.
Elle va attirer vers elle une grande partie du vote féminin, du vote des minorités, mais elle n'a aucune substance. Elle n'a rien à présenter, aucun bilan à présenter.
La Virginie-Occidentale a toujours voté pour l'ancien président Donald Trump, mais les électeurs s'inquiètent pour l'élection de 2024. Chanel Decroix est une électrice de Virginie-Occidentale.
Cela me rend nerveuse parce que je suis une partisane de Trump, mais je pense que tous ceux qui étaient un peu incertains vont maintenant opter pour Kamala.
Cet État rural joue un rôle prépondérant dans la politique nationale grâce à son seul élu démocrate, le sénateur Joe McCain, qui est devenu indépendant au début de l'année. Il a joué un rôle clé dans l'adoption des textes législatifs majeurs pour l'administration Biden. Mais avec le départ à la retraite de McCain cette année, les républicains sont presque certains de récupérer un siège au Sénat avec le populaire gouverneur Jim Justice dans la course. Marty Gihart fait partie de la direction républicaine du Congrès de Virginie-Occidentale.
Nous extrayons du charbon et le charbon a été attaqué et le gouverneur Justice possède des mines de charbon. Nous nous attendons donc à ce que cette industrie soit protégée.
De nombreux électeurs accusent les démocrates d'être responsables du déclin de l'industrie principale de la Virginie-Occidentale, l'extraction du charbon. Mais les démocrates de Virginie-Occidentale présents à la récente convention nationale du parti à Chicago tentent de changer cette perception. Troy Miller est un délégué démocrate de Virginie-Occidentale.
C'est directement dû au fait que les patrons du charbon ont automatisé les emplois et sont passés à l'exploitation à ciel ouvert plutôt qu'à l'exploitation souterraine. C'est une excuse facile pour blâmer les réglementations environnementales.
L'opposant démocrate du gouverneur Justice, Glenn Elliott, explique aux électeurs que la mainmise républicaine sur l'État n'a pas été bonne pour son économie ou sa croissance.
Nous devons encourager les petites entreprises comme cela n'a pas été le cas jusqu'à présent. Le corps législatif de notre État ne cesse d'adopter des lois très restrictives comme l'interdiction de l'avortement ou des lois anti-LGBTQ qui envoient aux jeunes le message suivant. Nous ne voulons pas de vous ici.
Mais dans cet État fortement pro-Trump, la plupart des électeurs rejettent la responsabilité des problèmes économiques sur Joe Biden et Kamala Harris.
Pourquoi voudriez-vous payer un dollar de plus pour l'essence? Pourquoi voudriez-vous payer vos courses 25% plus chères? Pourquoi voudriez-vous avoir un taux d'intérêt hypothécaire qui a doublé sous l'administration Biden? Et elle doit en prendre la responsabilité.
Dans un sondage réalisé à la fin du mois d'août par un organe de presse de Virginie-Occidentale, Trump devance Harris de 27 points.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumpa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales. Restez à l'écoute de nos programmes. À très bientôt.